Attente.
La fin de l'automne s'écoula, et tout l'hiver, et le printemps encore, et le début de l'été. Lord Mortimer vit les quatre saisons passées sur Paris, la boue s'amasser dans les rues étroites, puis la neige blanchir les prés de Saint-Germain, puis les bourgeons s'ouvrir aux arbres des berges de Seine, et le soleil briller sur la tour carrée du Louvre, sur la ronde tour de Nesle, sur la flèche aiguë de la Sainte-Chapelle. Un émigré attend. C'est son rôle, et presque croirait-on sa fonction. Il attend que le mauvais sort passe. Il attend que les gens dans le pays où il a pris refuge aient fini de régler leurs propres affaires. Passé les moments de l'arrivée où ses revers suscitent la curiosité, où chacun veut s'emparer de lui comme d'un animal de montre, sa présence bientôt devient lassante. Il semble toujours porteur d'un reproche muet. Mais on ne saurait s'occuper de lui à chaque instant. Il est le demandeur, il peut bien patienter après tout. Donc, Roger Mortimer attendait. Comme il avait attendu 2 mois en Picardie chez son cousin Jean de Fienne, que la cour de France fût rentrée à Paris. Comme il avait attendu que Monseigneur de Valois trouvât parmi toutes ses tâches l'heure de le recevoir. Il attendait maintenant une guerre de Guyenne qui seule pouvait changer son destin. Oh, Monseigneur de Valois n'avait pas lanterné à donner les ordres. Les officiers du roi de France, ainsi que Robert, l'avaient conseillé, avaient bien entrepris à Saint-Sardos sur les dépendances litigieuses de la seigneurie de Sarlat les fondations d'une forteresse. Mais une forteresse ne s'élève pas en 1 jour, ni même en 3 mois, et les gens du roi d'Angleterre n'avaient pas paru, du moins au début, s'émouvoir outre mesure. Aucun incident ne s'était encore produit. Roger Mortimer profitait de ses loisirs pour parcourir cette capitale qu'il n'avait qu'entrevue au cours d'un bref voyage et pour découvrir le grand peuple de France qu'il connaissait bien mal. Quelle nation puissante, nombreuse, et combien différente de l'Angleterre. On se croyait semblables, de part et d'autre de la mer, parce que dans les deux pays, les noblesses étaient de même souche. Mais que de disparités à considérer les choses de plus près. Toute la population du royaume d'Angleterre, avec ses 2 millions d'âmes, n'atteignait pas le 1/10 du total des sujets du roi de France. C'était à près de 22 millions qu'il fallait évaluer le nombre des Français. Paris, à soi seul, comptait 300 000 âmes quand Londres n'en avait que 40 000. Et quel grouillement dans ces rues, quelle activité de négoce et d'industrie, quelles dépenses. Il suffisait pour s'en convaincre de se promener sur le pont au change ou le long du quai des Orfèvres et d'écouter bruiter dans le fond des boutiques tous les petits marteaux à battre l'or, de traverser en se pinçant un peu le nez le quartier de la Grande Boucherie derrière le Châtelet où travaillaient les tripiers et les écorcheurs, de suivre la rue Saint-Denis où se tenaient les merciers, d'aller tâter les étoffes sous les grandes halles aux drapiers, dans la rue des Lombards, plus silencieuse, et que maintenant Lord Mortimer connaissait bien, se traitaient les grandes affaires. Près de 350 corporations et maîtrises réglaient la vie de tous ces métiers. Chacun avait ses lois, ses coutumes, ses fêtes, et il n'était pratiquement pas de jour de l'année où, après messe entendue et discussion en parloir, un grand banquet n'unit maîtres et compagnons, tantôt les chapeliers, tantôt les fabricants de cierges, tantôt les tanneurs. Sur la montagne Sainte-Geneviève, tout un peuple de clercs, de docteurs en bonnet disputaient en latin, et les échos de leurs controverses sur l'apologétique ou les principes d'Aristote allaient ensemencer d'autres débats dans la chrétienté entière. Les grands barons, les grands prélats et beaucoup de rois étrangers avaient en ville une demeure où ils tenaient une sorte de cour. La noblesse hantait les rues de la cité, la galerie mercière du palais royal, les abords des hôtels de Valois, de Navarre, d'Artois, de Bourgogne, de Savoie. Chacun de ces hôtels était comme le siège d'une représentation permanente des grands fiefs. Les intérêts de chaque province s'y concentraient, et la ville croissait sans cesse, poussant ses faubourgs sur les jardins et les champs, hors des murs d'enceinte de Philippe Auguste, qui commençaient à disparaître noyés dans les constructions nouvelles. Si l'on poussait un peu hors de Paris, on voyait que les campagnes étaient prospères. De simples porchers, des bouviers, possédaient fréquemment une vigne ou un champ en propre. Les femmes employées aux travaux de la terre ou à d'autres métiers ne travaillaient jamais le samedi après-midi, qui pourtant leur était payé. D'ailleurs, en tout lieu, on quittait le travail le samedi au 3e coup de vêpres. Les fêtes religieuses, nombreuses, étaient chômées, tout comme les fêtes de corporation. Et pourtant, ces gens-là se plaignaient. Or, quels étaient leurs principaux sujets de doléances? Les tailles. Les impôts, assurément, comme en tout temps et en tout pays, mais le fait aussi qu'ils eussent toujours au-dessus d'eux quelqu'un dont ils dépendaient. Ils avaient le sentiment de ne jamais vraiment disposer d'eux-mêmes, ni des fruits de leurs efforts. Il demeurait en France malgré les ordonnances de Philippe V, insuffisamment suivies, beaucoup plus de serfs, proportionnellement qu'en Angleterre, où la plupart des paysans étaient des hommes libres, tenus d'ailleurs de s'équiper pour l'armée, et qui pouvaient faire entendre leur voix aux assemblées royales. Cela faisait mieux comprendre que le peuple d'Angleterre eût exigé des chartes de ses souverains. En revanche, la noblesse de France n'était point divisée comme celle d'Angleterre. Il s'y trouvait bien des ennemis jurés pour questions d'intérêts particuliers, tels Robert d'Artois et sa tante Mao. Il s'y formait des clans, des coteries, mais toute cette noblesse reprenait cohésion lorsqu'il s'agissait de ses intérêts généraux ou de la défense du royaume. L'idée de nation y était plus précise et plus forte. La seule vraie similitude, en ce temps-là, qui existait entre les deux pays, tenait à la personne même de leur roi. À Londres comme à Paris, les couronnes étaient échues à des hommes faibles, ignorant ce souci véritable de la chose publique, sans lequel un prince n'est prince que de nom. Mortimer avait été présenté au roi de France et l'avait revu à plusieurs reprises. Il n'avait pu se former une bien haute opinion de cet homme de 29 ans, que ses seigneurs appelaient Charles le Bel, et son peuple Charles le Biot, mais qui, sous sa noble apparence, n'avait pas deux onces de cervelle.